Bertrand Pajot, vous êtes inspecteur général de l'éducation nationale, doyen du groupe Sciences et technologies du vivant, de la santé et de la terre. Et je vous invite à parler de cet exemple au sein de l'éducation nationale même pour faire la transition avec Jean-Michel Valentin. Merci.
Oui, bonjour à tous. Merci à l'Académie des sciences et à l'Agence française du développement de nous avoir invités, parce que déjà la richesse de la matinée est sujet de réflexion pour nous tous, et notamment les professionnels, on va dire, du système éducatif. Pour vous parler un petit peu de ce qui se fait dans l'éducation nationale, en prolongement de ce que vient de dire Jean-Michel Valentin sur la politique autour du développement durable et de l'intégration du changement climatique dans l'éducation nationale, je vais prendre une fenêtre beaucoup plus étroite, ce qu'on fait autour, finalement, essentiellement de météorologie, de climatologie dans le système éducatif, parce que c'est un bon moyen de révéler aussi les dynamiques qui se créent, ou les lourdes tendances, ou voire même les points de rupture qui existaient dans le système par rapport à ces thématiques. D'abord, météorologie, climatologie et éducation, c'est une longue histoire. Puis, dès 1864, dans ce qui était à l'époque le ministère de l'Instruction publique, il y avait une circulaire qui demandait ce que l'ensemble des professeurs dans les écoles normales soient formés finalement à la mesure météorologique, à faire un petit peu de climatologie. Et à la grande surprise du ministère, il faut bien dire qu'à l'époque, il y avait tellement de succès que beaucoup d'enseignants réclamaient le développement des outils qui aillent jusque dans les moindres écoles, ce qui a posé des problèmes, des thématiques qu'on retrouve parfois de nos jours encore, finalement, dans la même logique. Et donc, on a eu toujours une très grande, finalement, affinité des personnels éducatifs, notamment l'enseignement dans le premier degré, pour la chose météorologique. Alors, ça s'expliquait parfaitement. On est dans une France encore très agricole et qui dépend beaucoup, effectivement, pour les récoltes des aléas météorologiques, voire des aléas climatiques, et qui, finalement, il y a une très forte demande et finalement, d'un moment à un autre, d'apporter une approche scientifique dans des choses qui, par ailleurs, étaient parsemées de grandes sentences sur les climats ou la météo à l'époque. Et globalement, finalement, cette dynamique-là, malgré des vicissitudes historiques, quelques guerres mondiales ou des crises économiques, s'est toujours maintenue, puisqu'à intervalles réguliers, de toute façon, ce qui était l'enceinte de Météo France, réclamait au ministère de l'Instruction publique, puis au ministère de l'Éducation nationale, de réactiver ces réseaux et de faire que, par exemple, les instituteurs français étaient des acteurs très efficaces de la prise de mesures sur le territoire pour apporter des informations qui étaient fort utiles à ce qui est devenu Météo France. Alors, en plus, ça se déclinait, bien sûr, dans le système éducatif, suivant les disciplines, avec des approches qui étaient d'ailleurs, par rapport à la météorologie, plutôt réservées au domaine des sciences et des sciences expérimentales. Le climat était plutôt réservé à l'approche géographique. On était dans une vision, la France avait énormément de territoires d'outre-mer à l'époque, des grands climats de la Terre en géographie. On réalisait du diagramme ombrothermique, vous connaissez, hein, c'est une chose qui a été créée par des botanistes à l'époque. Le diagramme ombrothermique est quelque chose qui permettait de révéler finalement les caractéristiques climatiques d'un lieu donné. Sauf que derrière, il y avait une idée assez sous-jacente, c'est que le climat était très stable. D'une certaine manière, le diagramme ombrothermique n'était pas supposé changer finalement fortement, et on voyait que ce n'était pas tout à fait l'approche. Et puis on écrivait beaucoup et on travaillait beaucoup sur les climats de la France. Les climats du passé étaient relativement aussi peu abordés, sauf par l'intermédiaire de l'évolution humaine. On montrait effectivement que, et avec ce que l'on savait de l'évolution humaine, qui s'est beaucoup à la fois complexifiée et enrichie par les études récentes, mais on voyait bien que Néandertal avait vécu dans un climat qui n'était pas le même. On avait des traces des climats du passé, plutôt plus froids qu'à l'actuel, et qui donnaient une approche sensiblement différente, mais qui permettait de sensibiliser à une première approche, finalement, de changement climatique. Mais sans doute penser à une très grande... pas de temps, une très grande constante de temps, ce qui n'est pas le cas de notre problème actuel. Alors pourquoi, finalement, aussi, s'est-on intéressé très vite en éducation à météorologie et climatologie? Valérie Masson-Delmotte le disait, d'abord, c'est un très bel objet de science. Et je crois que ça a attiré énormément les enseignants parce qu'il y avait de l'observation, de la mesure, de la comparaison, de l'analyse de données, de la prévision. On ne parlait pas encore à l'époque de excuse-moi, j'ai perdu mon frère, mais enfin, voilà, merci, c'est le trou de mémoire complet. Et puis ça pouvait s'illustrer dans toutes différentes manières, par exemple en physique fondamentale, sur la connaissance de l'atmosphère, composition, loi des gaz parfaits, définition des grands paramètres. Ça avait aussi un gros intérêt pédagogique, parce que pour les élèves, notamment les plus jeunes, appréhender les espèces spatiales et temporelles sont toujours très compliquées. Or, on a un objet sensible tous les jours qui permet de les aborder facilement et qui facilite des activités des élèves. Et puis, on pouvait identifier des marqueurs du climat du passé dans la géologie, dans ma discipline d'origine. Effectivement, dès qu'on parle finalement des temps passés, on parle de changement climatique. Un climat triasique, franchement tropical, sur ce qui est la France actuelle, ne ressemble en rien à ce qu'on connaît. Et c'est marqué dans les couches géologiques. Et on peut facilement en convaincre les élèves avec des approches en utilisant le principe d'actualisme. Bref, on avait tout un tas de disciplines qui pouvaient concourir autour de ceci et qui permettaient de faire la bonne science avec ce que souhaitaient les interlocuteurs de ce matin en termes de rigueur, d'approche, de variété, d'analyse. C'est aussi un bel objet pédagogique, parce qu'avant que l'on parle même de démarche d'investigation, ça permettait d'avoir une pratique de pédagogie active dans les classes. Les élèves allaient faire les mesures régulièrement, rentraient dans les comparaisons, il y avait toujours un club science ou météo qui organisait tout ceci. Donc forte mise en activité des élèves qui, dans un contexte pédagogique qui était plutôt frontal dans la majorité des disciplines, changeaient beaucoup les activités, les enseignants et les élèves y étaient très sensibles. C'était aussi prendre en compte ce qu'étaient les élèves de l'époque. Dans une France rurale, les élèves, majoritairement ruraux, dépendaient de cet aspect-là. Et on prenait en compte aussi les besoins sociaux et les besoins économiques de la nation par l'intermédiaire de ce... Et puis c'était, et ça reste toujours, et c'est un point pourquoi les enseignants aussi apprécient énormément ces sujets, c'est qu'il y a de nombreux partenariats possibles. Je prends l'exemple de Météo France de nos jours, parce qu'il y avait... Il y avait beaucoup plus à une certaine époque, mais en tout cas de centres départementaux de météorologie qui étaient des gens ou des chercheurs ou des techniciens très accessibles qui pouvaient apporter des données originales, scientifiques, sur lesquelles on pouvait travailler et qui permettaient de valider, d'infirmer des données prises dans l'école. Est-ce qu'il y avait un problème de mesure? Est-ce qu'il y avait un problème d'interprétation? Donc, ils permettaient d'aller plus loin dans la démarche scientifique et de croiser les choses. Mais c'est vrai aussi à de nombreux chercheurs dans ces domaines-là qui réagissaient souvent aux sollicitations des enseignants. Et là, il faut rendre hommage à la communauté scientifique qui a toujours répondu fortement aux besoins de formation par l'intermédiaire de l'Académie des sciences. Mais dans la salle, il y a des gens qui sont terminés dans les 3 dernières années dans des formations enseignantes. Valérie Masson-Delmotte, Hervé Le Treut, Gilles Boeuf, dans les 3 dernières années, ont été dans ces formations-là. Et c'est quand même pour les enseignants une valeur ajoutée extraordinaire par rapport à la formation et aux éléments qu'ils peuvent faire. Puis tout ce que peut apporter d'autres dispositifs dont nous parlons. Donc on comprend pourquoi la thématique a toujours été très fortement intégrée dans les... Alors, pour revenir sur l'inscription, où finalement cette thématique s'inscrit-elle, dans l'éducation nationale, il y a des programmes, puisqu'il y a des disciplines. Le pas de temps d'un programme est un pas de temps relativement long aussi, puisqu'un programme, bon an, mal an, résiste une dizaine d'années à peu près. On voit que par rapport aux objectifs de suivre les changements climatiques, on n'a finalement que 2 possibilités de changement de programme avant l'échéance des 2 degrés. Et donc, il faudra faire particulièrement attention. Mais on voit bien que ça touche plus sensiblement à les 4 disciplines qui sont indiquées ici. L'histoire-géographie, par l'aspect climat, elle partait à la fois de géographie physique, de géographie humaine, et ses incidences sur les populations. Les sciences physiques pour les paramètres de l'atmosphère. La technologie pour les instruments de mesure. Souvent, les élèves sont sensibles à concevoir leur propre outil de mesure, et on voit les intérêts scientifiques et pédagogiques que ça peut avoir. Et puis les sciences du vivant et de la Terre, à la fois pour l'influence de la météorologie et de la climatologie sur les êtres vivants, ce qui est un point clé. On ne peut guère comprendre les notions d'écosystème sans prendre en considération les phénomènes climatiques et météorologiques. Et puis sur le climat du passé, on l'a dit, et les climats avec une incidence très forte, ou les climats du passé pour l'évolution humaine, dans lequel il y a souvent et très vite dans les programmes a été fait le lien entre les variations climatiques du passé et les possibilités de l'évolution humaine. Alors ceci se confirme actuellement, je ne vous ai pas refait l'historique de tous les programmes, sinon vous auriez fui la salle avec un bel allant, mais une chose est sûre, c'est qu'actuellement, on voit bien que ces changements s'inscrivent plus fortement. D'abord en cycle 3, qui pour l'instant, et pour ceux qui n'auraient pas suivi les derniers changements, c'est CM1, CM2, 6e, c'est voilà, des élèves de ce niveau-là, on a déjà une sensibilisation à ce que peut être la météorologie ou la climatologie. On ne les définit pas obligatoirement, mais on les nominalise par intermédiaire des phénomènes. Alors c'est peut-être un biais un peu problématique qui sont les événements extrêmes, mais ça permet aussi de travailler sur l'actualité. Finalement, c'est une étape de sensibilisation aux élèves pour changer un petit peu dans la classe de ce qu'ils peuvent entendre dans les grands médias ou dans les médias sociaux qu'ils vont pratiquer aussi très assidûment. En cycle 4, qui correspond à ce qui est au collège, maintenant 5e, 4e, 3e, dans l'enseignement de géographie, ce qui est très intéressant, c'est de voir que, par exemple, c'est le programme maintenant, un item qui s'appelle « Prévenir les risques, s'adapter au changement global ». On est très clairement dans une identification du changement global et d'une implication de l'ensemble des élèves ou l'humanité dans cette thématique. En SVT, le Conseil supérieur des programmes a choisi d'insister sur la différence qu'il y a entre météorologie et climatologie. On revient sur le pas de temps et sur la compréhension des phénomènes et d'identifier ce qui relève de la météorologie et ce qui relève de la climatologie, c'est-à-dire quelque chose qui est stabilisé sur, déterminé scientifiquement, un pas de temps de 30 ans qui permet d'identifier un certain nombre de variations. Et puis on l'illustre avec un certain nombre de choses, avec les zones climatiques de la Terre, avec tout l'ensemble des ressources qui nous sont offertes actuellement. Et puis on essaie de servir des climats du passé, pour faire court, pour essayer de prévoir et de dessiner qu'est-ce qui pourrait se passer dans l'avenir. C'est toujours cet aller-retour, ce qui sert aussi en modélisation, pour identifier un certain nombre de choses. Il y a même des dispositifs pédagogiques nouveaux, comme les EPI, les enseignements en pratique interdisciplinaire, qui permettent à différentes disciplines de croiser une thématique sur laquelle ils voulaient travailler. Ils sont en train de se mettre en place dans les collèges. Il y a fort à parier que climatique et météorologie vont être souvent présents. Parce que c'est des thématiques qui existaient beaucoup, dans plein de dispositifs, on va dire, interdisciplinaires qui existaient au préalable et qui vont être réanimés, si j'ose dire, réactivés par l'intermédiaire des EPI. Ça, pour l'instant, le bilan est un peu délicat à faire, puisqu'ils sont juste en place depuis la rentrée. Mais on voit que, en tout cas dans les programmes, l'inscription du changement climatique, et liée en plus à tout ce qui est lié au développement durable, se fait et est stabilisée. On est au niveau collège. L'avantage, c'est que touche les 300 000 nouveaux élèves français, pour donner d'autres chiffres sur le flux éducatif français, qui rentrent chaque année dans le système. Et en tout cas, tous les élèves ici vont avoir cette sensibilisation. Il faudra voir ensuite, par rapport au niveau lycée, et tous les lycées, c'est-à-dire généraux, technologiques et professionnels, comment apporter à chacun, y compris dans ses métiers, dans ses compétences métiers, des éléments qui peuvent lui faire prendre en compte le changement climatique ou le changement global. Dans les enseignements de lycée, c'est l'état actuel. Et on voyait que finalement, le collège a connu sa dernière réforme l'année dernière. Donc le lycée est d'une certaine manière en retard à cette évolution. Il faudra un moment qu'il se cale par rapport à cette chose. Mais il existe déjà des choses. On parle dans les enseignements d'exploration, des enseignements spécifiques en, scientifiques en seconde, de sciences et prévention des risques d'origine humaine. Et on parle dans différents programmes de choses qui ont trait à l'atmosphère, au climat du passé, au bilan énergétique de la Terre et un certain nombre de dispositifs. Je voudrais l'exemple juste, et c'est un choix strictement personnel et fatalement arbitraire, sur ce qui se passe réellement sur le terrain. Il y a des opérations comme celle-ci, la météo des écoles, qui a débuté comme un projet typiquement d'un instituteur, et on est dans la vieille tradition, dans le département de l'Hérault, et puis qui a fini par se développer sur toute l'académie qui s'appellerait maintenant l'Occitanie, enfin la grande région académique occitane, et qui a même plein de correspondants à l'étranger. On a un collègue du Maroc, puis il y a des correspondants de la météo des écoles au Maroc, de façon animée. C'est un réseau d'enseignants qui font de la météorologie et qui partagent. On voit que les nouveaux outils numériques permettent d'avoir une ampleur qui aussi permet de toucher le climat par l'intermédiaire des simples observations météorologiques. Il y a aussi une autre action de terrain, alors elle est moins de terrain parce qu'elle est initiée par, au niveau du ministériel, qui s'appelle Météo à l'école, pas de confusion avec la précédente, même si les deux travaillent ensemble, qui était de doter les collèges et les lycées de stations météo, toutes de la même manière, de façon à pouvoir faire finalement une étude scientifique bien calibrée, en tout cas avec les mêmes outils, et qui permet de croiser avec d'autres dispositifs, et Gilles Boeuf a parlé de sciences participatives comme Viginature École, mise en place par le Muséum d'Histoire Naturelle et qui permet de croiser les aspects météo-climato et les aspects de biodiversité. Ça, c'est quelque chose qui marche bien, qui a une ampleur et qui cesse à se développer. Tous les établissements portent et les gens échangent. Là, on utilise le réseau pour finalement aborder un certain nombre d'éléments. Il y a des choses encore plus originales. L'opération Calisphère a été faite liée au lancement d'un satellite d'observation de la Terre qui s'appelait Calypso, qui déterminait le suivi des aérosols dans le paramètre. Vous voyez, c'est un paramètre déjà un peu plus fin scientifiquement. Et l'idée de la NASA à l'époque, c'était de doter des scolaires d'outils de mesure de transparence de l'atmosphère pour faire des mesures réciproques. Le satellite part en haut et les élèves partent en bas. Et ça donne des analyses extrêmement intéressantes, y compris sur un des collèges français qui a le mérite peu flatteur d'être le plus pollué au monde, puisqu'il est situé à la sortie d'un grand tunnel autoroutier dans une vallée alpine, et qui a des mesures de transparence d'atmosphère déplorables. Effectivement, il y a beaucoup de particules issues des combustions de diesel et de poids lourds dans ce genre. Et donc, ils peuvent comparer, les élèves, c'est intéressant de voir de la, finalement d'être en relation avec de la science dure, telle qu'elle se fait, de la donnée satellitaire très puissante, avec des mesures qu'ils font effectivement. Ils font partie aussi du réseau Globe. Le réseau Globe est un réseau international qui est mis en œuvre par la NASA et qui consiste autour de thématiques qui touchent météo-climato, mais aussi la phénologie, la biodiversité, qui permettent aussi, sur des thèmes, de partager un certain nombre de choses. Et puis, c'est pour faire une transition avec la formation, on a un gros partenariat avec Météo France qui donne beaucoup de ressources à disposition de nos enseignants. Car pour faire ce genre de programme, il faut avoir des ressources. Et dans un monde où tous les élèves ont accès à beaucoup d'informations, c'est mieux d'avoir des ressources qui sont certifiées scientifiquement et qui sont de haute qualité et renouvelées souvent. Et ça, on peut rendre hommage à Météo France qui nous aide en donnant beaucoup de données pour les formateurs. La formation aussi, elle repose sur des partenariats, notamment avec La Main à la Pâte, dans lequel il y a eu beaucoup de ressources faites sur Météo Climato. Et c'est un point qui reste encore à développer, sur lequel il faudra amplifier notre effort avec tous les partenariats possibles. En conclusion, dans les temps qui ne m'est plus imparti, je voudrais dire qu'on en situe bien dans une continuité historique. Et ça veut dire qu'on a aussi une population d'enseignants qui est prêt à s'investir. Vraisemblablement parce que l'objet l'intéresse, parce qu'elle est capable de faire quelque chose. Ça paraît être un bon levier pour entrer dans une dynamique qui est demandée par l'UNESCO, hein, dans son rapport du 6 septembre 2016, qui était inclure dans les programmes les défis du changement climatique. On peut penser en termes de programme national d'adaptation au changement climatique, qui doit avoir à un moment un volant réforme. Utilisons donc les enseignants qui sont sans doute très intéressés, qui sont prêts, et je retiens ce que nous disait Pierre Léna sur le changement de mindset, c'est-à-dire changer ses pratiques pour aller sur de nos objectifs pédagogiques qui concernent et qui portent de la valeur pour les élèves. C'est un point extrêmement important. Et tout n'est pas obligatoirement rose, il y a aussi des efforts à faire, on l'a souligné un petit peu. Et un grand absent de nos programmes qui pourrait être utile dans les changements climatiques, c'est le milieu océanique. Pour un pays qui a une grande façade maritime, c'est toujours un sujet d'étonnement de ma part, mais sur lequel on pourrait faire de la bonne science aussi, et lié à tout ceci. Les interactions, les grands cycles biochimiques, la modélisation qu'on pourrait commencer à initier. On l'avait déjà fait dans des programmes historiques qui portaient là-dessus avec, à l'époque, l'INRP. Et puis enfin, pour conclure définitivement, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi s'appuyer. Je pense qu'on a tout intérêt à porter ces gens, au moins au niveau européen. On a plein de systèmes éducatifs qui nous sont proches, avec des académies des sciences, avec des partenaires qui pourront déjà permettre d'amplifier une thématique nationale vers des thématiques européennes qui auraient un meilleur développement. Je vous remercie.